Jonathan a eu droit à un autre rebondissement dans la saga de l'église Saint-Cœur-de-Marie sur Grande-Allée hier après-midi. Finalement, la Ville de Québec autorise la démolition, mais il y a certaines contraintes que le promoteur va devoir respecter.
Oui, c'est ça. C'est un revirement de situation dans cette saga qui perdure, je vous dirais, depuis près d'une dizaine d'années. Vous rappelez que cette église, qui se trouve juste en billet du Concorde sur Grande-Allée, est désacralisée depuis 1997. Donc, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années.
Oui, jusqu'à tout récemment, c'était une bouquinerie. Il y avait des vinyles, il y avait des livres là-dedans. Le toit coulait, mais c'était utilisé pour ça.
Et là, il y a eu un problème cet hiver. Selon ce qu'allègue le promoteur, propriétaire des lieux, Louis Lessard, la Ville de Québec aurait ouvert l'eau. Et le problème, c'est que le sous-sol se serait rempli. Ensuite de ça, sous l'effet du gel, ça aurait gonflé. Et ensuite de ça, ça aurait fait craquer une bonne partie de la fondation et également les murs. Ce qui rendait l'église dangereuse et instable, selon un rapport d'une firme qu'il a commandé. Et là, la Ville de Québec avait dit « Oh non, les pompiers étaient allés voir, allés faire un tour. Non, tout est correct.
Ça va tiendre. »
Ouais, c'est ça. Sauf que M. Lessard a décidé de se rendre devant les tribunaux. En se rendant devant les tribunaux, eh bien, le juge a vu à quel point c'était sérieux que c'était cette situation-là. La Ville de Québec a mandaté également une compagnie d'ingénieurs pour faire un rapport d'expertise. Et on en vient à la conclusion qu'effectivement, c'est dangereux. Donc, Louis Lessard là-dessus remporte son point. Vous rappelez que cette église a été achetée par M. Lessard au coût de 1,8 million de dollars. Il a présenté 9 versions de projets différentes. Donc, 9 versions différentes et elles ont toutes été refusées. Même celle en 2016 qui permettait d'inclure la façade parce que il disait ça prend de l'argent. Et là-dessus, juste avant que l'on parle à notre prochaine invité, je vous ferai écouter d'abord ce que Louis Lessard hier a mentionné en entrevue avec Éric Duhaime au sujet de la condition qui lui est imposée pour la démolition, soit d'y aller avec une déconstruction, garder des pierres de la façade et également les ferblanteries, parce que la commission d'urbanisme exigera la reconstruction de la façade. Donc, je vous invite à écouter Louis Lessard.
On a 60 jours pour aller chercher le permis. Et il reste une chose, ils ont mis des conditions que le comité consultatif a posées qui sont déraisonnables, à mon point de vue. Ben, écoutez, ils nous demandent de faire ce qu'on appelle du façadisme, à savoir conserver, récupérer et conserver une partie des pierres pour refaire un peu la façade. C'est une chose, c'est un projet que j'avais déposé en 2016, qui avait été refusé, puis on revient là, puis pourquoi il a été refusé? Parce que ça coûtait à l'époque une dizaine de millions. Malheureusement, ils peuvent le demander, mais le pouvoir de la ville, d'après moi, il passe après le pouvoir du juge en cour supérieure. Alors oui, je suis bien content, mais on va aller voir le juge le 26-27 pour voir si ces conditions-là, la ville peut les imposer ou pas.
Donc là, il faudrait numéroter puis rebâtir ça comme des blocs Lego pratiquement. Imagine le trouble que ça doit être.
Le travail, ça serait extrêmement coûteux. Est-ce que ça va vraiment amener une plus-value à l'édifice à condo de 18 étages que veut construire sur ce site M. Lessard? On verra bien, mais là, pour l'instant, il veut s'adresser aux tribunaux. Et pour parler de la situation, on va se tourner vers l'élu de Démocratie Québec dans le secteur, le conseiller du district Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau. Bonjour, M. Rousseau.
Bonjour.
Alors, M. Rousseau, d'abord, j'aimerais savoir comment avez-vous réagi hier quand vous avez appris la nouvelle?
Ben, avec tristesse, parce que c'est un bâtiment pour lequel on se bat depuis plus de 10 ans. Vous avez fait un bon résumé. C'est un bâtiment qui a sa place dans le paysage de la Grande Allée. Il a une valeur patrimoniale d'un certain niveau, là, qui n'est pas parmi, comment dire, les plus grandes valeurs, mais qui a été reconnu et qui a été enchâssé dans le PPU de la colline parlementaire. Dans la saga qui nous oppose entre la ville et M. Lessard, effectivement, M. Lessard a présenté un grand nombre de projets. La ville a toujours eu des réticences, puis je peux très bien comprendre que M. Lessard soit exaspéré, fatigué de tout ça. D'un autre côté, l'exigence de maintenir ou de préserver les dimensions patrimoniales, elle est importante. Mm-hmm. Puis, M. Lessard savait très bien qu'en achetant ce bâtiment-là, il y aurait des contraintes. Bon. Là, c'est de trouver un terrain d'entente parce que là, tout serait à coup d'injonction puis de présence devant les tribunaux et personne n'est gagnant dans cette histoire-là. Alors, les exigences de la commission d'urbanisme de préserver la façade, c'est une chose, sauf qu'il va falloir que la ville contribue d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas juste demander au promoteur qui étale l'argent sur la table. Il faut qu'il y ait une bonne foi quelque part. Il faut rebâtir des ponts. On est rendu là.
justement sur l'idée là, de faire du ce que M. Lessard a appelé du façadisme, de garder la façade ou sinon de la défaire pour la reconstruire comme l'exige la commission d'urbanisme. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ou il est peut-être un peu trop tard?
Non, trop tard. Il est toujours trop tard dans le sens que quand on ne fout rien pendant des années, on arrive à une situation où on est face justement à un bâtiment qui présente des risques. Et là, effectivement, vous l'avez dit, les pompiers étaient allés voir et c'était plutôt le danger immédiat. C'est ça qu'il faut juger avec les pompiers. Par la suite, contre-expertise de la ville qui montre qu'il y a effectivement des faiblesses, des défaillances. Mais soyons clairs, le propriétaire de ça, il n'a pas investi une scène à essayer de maintenir ou à préserver le bâtiment. Là. Qu'il y a eu une fuite cet hiver, c'est une chose, mais on est rendu là parce qu'il n'a pas investi pour préserver le bâtiment. Là. Donc, c'est facile d'accuser la ville. Le défi, je reviens sur l'aspect du façadisme, ça c'est un concept où finalement on ne conserve que la façade d'un bâtiment. On a fait ça un peu avec le diamant à Place Douville, mais on l'intègre quand même dans une construction qui permet de garder un peu l'esprit du lieu. Ouais. Puis c'est ça, c'est de conserver l'esprit du lieu, de voir justement la fameuse tour byzantine de l'église Saint-Cœur-de-Marie. C'est assez unique au Québec et ça donne, c'est un peu la signature de la porte d'entrée de la Grande Allée. Mm-hmm. Faire tout sauter puis mettre du moderne, on n'est pas à Las Vegas, c'est pas une strip, la Grande Allée. Le cachet que la Grande Allée a, c'est son mélange, justement, d'ancien et nouveau. Puis je comprends que les commerçants veulent que ça se règle au PC, mais on fera pas n'importe quoi. Donc, oui, l'exigence, elle est grande, mais il faut montrer une bonne foi de la part de la ville dans ce qui s'en vient encore une autre saga judiciaire.
Trouvez-vous que
le bâtiment se détruit.
Trouvez-vous que c'est un compromis qui est acceptable?
Personnellement, oui, parce que énormément de personnes ont poussé pour qu'on trouve une vocation à ce bâtiment-là. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu des projets, justement, M. Lessard en a présenté plusieurs. Puis je comprends son exaspération. Donc, quelque part, il faut que la ville arrive, malgré le litige judiciaire, à montrer sa bonne foi également, et ça a fait cruellement défaut. Je dirais, cyniquement, on dirait que tout le monde est heureux que ce bâtiment-là se soit dégradé parce que finalement, personne n'avait assumé de responsabilité quant à l'avenir. Donc, c'est là où on est sérieux ou on ne l'est pas, parce que sinon, on va revivre ce qui s'est passé. Rappelez-vous le patro Saint-Vincent-de-Paul, l'église Saint-Vincent-de-Paul. On avait conservé la façade qui tenait tant bien que mal sur la côte d'Abraham pendant quelques années, puis à un moment donné, même histoire. On l'a jeté à terre, puis le promoteur était bien content de rentrer à Pétain là-dedans. Mais bon, voilà, on est là.
Et là, vous estimez que ce serait aux contribuables, à la ville, donc aux contribuables, de payer en partie pour conserver la façade?
Je pense qu'on devrait trouver une solution mitoyenne, parce qu'il y a des programmes de subvention qui impliquent le ministère des Affaires culturelles, où on pourrait justement participer, contribution indéterminée, mais aider, montrer la bonne foi. Je pense que c'est de trouver une façon de montrer qu'on veut en arriver à une solution. Si c'est pas le cas, on va être encore devant les tribunaux et plus ça va se dégrader, plus finalement la solution finale va être de tout jeter sur la terre.
Mais M. Rousseau, en 2016, on parlait de 8 à 10 millions. Fort à croire que la facture ne serait pas moindre aujourd'hui, rendue en 2019.
C'était pour l'ensemble du bâtiment, faut s'entendre. Là, il faut voir qu'est-ce qui est réaliste. On parle d'une portion du bâtiment et non de l'ensemble. Puis, écoutez, c'est sûr que ça coûte cher, la rénovation. Je regarde ce qui se passe, par exemple, l'ancien palais de justice qui est sur la rue Saint-Louis, proche du château Frontenac. On parle, le gouvernement du Québec va investir 50 millions de dollars pour une mise à niveau, une rénovation. On sait que le patrimoine, il y a des coûts, il y a, comment dire, c'est des investissements majeurs. Mais c'est un choix. C'est un choix que l'on fait dans une ville patrimoniale. C'est un choix que moi, j'ai poussé pour ce secteur. Et pour l'église Saint-Cœur-de-Marie, énormément de citoyens préoccupés par le patrimoine. On juge que ce sont des investissements qui seraient nécessaires.
Alors donc, on verra à la fin du mois de juin quand il rencontrera le juge de la Cour supérieure pour savoir qu'est-ce que lui décidera. Parce que là, on semble encore être à couteau tiré.
Ah, c'est clair, il n'y a pas de dialogue. Là. C'est le pire des scénarios par rapport. Pour le bâtiment, lui, il dégrade en attendant. Donc, faut voir s'il y a une mesure de bonne foi qui existe et si on est en mesure de se parler. Si ce n'est pas le cas, écoutez, le bâtiment va simplement être jeté à terre, ni vu ni connu.
Et tant qu'à vous avoir au bout du fil, M. Rousseau, j'aimerais aborder avec vous un autre sujet. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. C'est le sujet de la location, donc de type Airbnb.
Oui, tout à fait.
On sait que dans le secteur où vous avez été élu, Capot-Diamant, il y en a beaucoup qui se fait. Il y a des citoyens qui vous ont notamment interpellé, qui ont interpellé également l'administration Labeaume pour qu'on en arrive et que l'on encadre tout ça pour que ce soit peut-être davantage vivable pour eux. Et là, la semaine dernière, on apprenait que la ville décidait de suspendre son règlement en attendant de savoir ce que le gouvernement Legault était pour faire. Et hier, c'est tombé, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a révélé ce qu'il en est. Peut-être, comment avez-vous réagi ou comment avez-vous accueilli les mesures qui sont présentées ici, là?
Ben, les mesures de la ministre sont plus sévères que ce que la ville entendait faire. Donc, si par exemple on parle de l'allocation d'un appartement, d'un condo, la ville demandait ou suggérait plutôt que les locataires ou propriétaires de condos parlent à leur syndicat de propriété pour essayer d'obtenir une autorisation. Ce qui est tout à fait inacceptable. Le nouveau règlement provincial va exiger des preuves formelles d'appui du syndicat de condo ou du propriétaire dans le cas d'un appartement. Donc, ça, déjà, c'est mieux. La notion d'un numéro d'identification, c'était le même principe au niveau de la ville. Exact. Savoir qui fait de l'hébergement touristique, minimalement. Là, ce qui est plus délicat, c'est sur la durée. La ville parlait d'une durée de 90 jours, pas nécessairement consécutif. Là encore, sur une base de déclaration volontaire, aucun contrôle. Ce que je comprends du règlement provincial, c'est qu'il n'y aurait pas cette limite.
Bon, ça, c'est on ne l'a pas vu non plus.
Non. La dimension particulière du règlement provincial, c'est toujours la notion de résidence permanente principale. Et là, on ouvre la porte sur la notion de résidence secondaire. Bon, c'est là où ça peut devenir délicat parce que celui qui achète, parce que cachons-nous pas, là, ceux qui font beaucoup d'argent avec Airbnb, l'hébergement touristique, c'est des conglomérats, c'est des groupes immobiliers qui achètent et qui louent des grands ensembles d'appartements après avoir évincé des locataires. Alors, pour ces gens-là, la norme, c'est la notion de résidence secondaire. Bon, c'est là où là, le diable est dans les détails et ça peut être problématique. Alors, on va voir comment ils vont l'appliquer, qu'est-ce qu'il y en a. L'aspect important en ce moment, c'est que c'est le ministère du Revenu qui fait les inspections. Alors, les taxes, c'est là où on peut prendre les gens qui finalement font du commerce à grande échelle. Et le nombre d'inspecteurs, on passerait de 15 à 25. Je pense pas que ça soit suffisant. À Québec, on a 3000 adresses où il y a de l'hébergement touristique de type Airbnb, dont 90% est illégal. Donc, nos bons inspecteurs, on pourrait les occuper rien qu'à Québec à temps plein. Alors,
Mais en gros, êtes-vous généralement satisfait?
Ben, je pense que oui. Je pense que la ville doit se conformer avec ce qui se passe. Par contre, il y a très peu d'efforts qui sont faits sur le terrain pour essayer de contrer le phénomène. Dans Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Québec, on les voit, là. Les touristes à roulettes, comme on les appelle, qui sont perdus, qui ne savent pas trop où aller, qui nous demandent où est-ce que c'est telle adresse. Puis les vidanges qui sont jetées à tous les jours de la semaine sans considération des horaires des cueillettes, on les voit. Les gens qui stationnent parfois en sens inverse dans des zones illégales, on les voit. Alors, la réalité sur le terrain, les citoyens la ressentent, puis on a beau parler réglementation, il faut que ça marche encore principalement sur la délation. C'est-à-dire, c'est encore le fardeau de la preuve, c'est les citoyens qui sont victimes de ces abus. Parce que c'est toujours pareil, là. Ça en prend quelques-uns qui font le parterre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour faire en sorte que les gens ne sont plus capables. Et il faut qu'on se plaigne. Alors, de ce côté-là, j'ai hâte de voir que la ville veut faire pour justement essayer d'endiguer le phénomène.
On verra comment ça va s'appliquer à ce moment-là. Ce qui devrait être appliqué à compter de l'automne, c'est du moins ce qu'a mentionné hier la ministre du Tourisme. Donc, merci beaucoup, M. Rousseau, d'avoir été avec nous.
Ça se poursuit entre-temps. Ben, merci à vous.
Merci. Donc, Jean Rousseau, élu de Démocratie Québec, conseiller du district de Capot-Diamant, qui est avec nous pour autant nous parler de l'église Saint-Cœur de Marie, mais également de la location de type Airbnb.
Avant d'aller à la pause, je vous pose la question. Cette idée-là que les contribuables pourraient mettre de l'argent dans la rénovation de la façade façade, là, que le propriétaire ait une partie des coûts à défrayer et que soit via une aide provinciale, soit via une aide municipale, ou les deux, on lui donnerait un coup de main. Je veux savoir si vous pensez que c'est une bonne idée. Les premiers textos qu'on a reçus semblent pas très chauds à l'idée. Après tout, c'est le propriétaire qui va faire des profits avec la vente d'unités de condo. Donc...
Mais ça ajoute pas vraiment de plus-value aux gens qui vont acheter le condo que d'avoir une belle façade ou avoir la façade de l'église.
Non.
Et je dois vous dire qu'en 2016, quand ça avait été proposé, autant la Ville de Québec que le ministère de la Culture avaient fermé la porte.
Oui, je veux vous entendre là-dessus. Studio à commercialfm93.com 25226. Au retour de la pause, on revient sur les 75 ans du débarquement de Normandie avec Luc Lavoie.